بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد Nous avions entamé la semaine dernière la lecture du commentaire du noble cheikh عبد المحسن العباد حفظه الله تعالى des 40 hadiths recensé par l'imam al-Nawawi, rahimahullah. Et nous nous étions arrêtés au quatrième point qui compose le commentaire de ce premier hadith, qui est le hadith de l'intention, rapporté par Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu. Suite à cela, le shir a dit, dans le cinquième point, concernant sa parole, et chacun sera rétribué selon ses intentions, et nous avions dit donc qu'ici, il est opportun de faire ressortir ce principe, cette notion de restriction, et de dire, et chacun ne sera rétribué que selon ses intentions. Donc Ibn Rajab dit, c'est-à-dire dans le livre Jami' al-Ulum wal-Hikam, c'est une information disant qu'il n'obtiendra de son acte que ce qu'il a visé. Si son intention était bonne, il obtiendra un bien de son acte. Dans le cas contraire, il en obtiendra un mal. Concernant les deux premières phrases du hadith, il ne s'agit pas d'une simple répétition. Donc, il vise par là la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam « Innama al-a'malu bin-niyat wa innama li kulli mir'in ma nawa » Les actes ne valent que par les intentions et chacun ne sera rétribué que selon son intention. Ces deux premières phrases-là sont visées lorsqu'il dit concernant les deux premières phrases du hadith, il ne s'agit pas d'une simple répétition. En effet, la première phrase établit une corrélation entre la rétribution du serviteur et l'intention qu'il avait eue en agissant. Suite à cela, je vous lis la traduction d'un passage qui a été omis par le traducteur, afallahu an, certainement par inattention. Donc la tentative de traduction de ce passage qui n'est pas présent ici est, quant à la deuxième phrase, elle indique que le fait que l'acte soit bon ou pas dépend de l'intention. Je répète, quant à la deuxième phrase, elle indique que le fait que l'acte soit bon ou pas dépend de l'intention qui motive son accomplissement et que la punition qui le menace découle de sa mauvaise intention. Et que la punition qui le menace découle de sa mauvaise intention. Il est en outre possible que son intention soit tout simplement permise. Il est en outre possible que son intention soit uniquement ou tout simplement permise. Auquel cas, son œuvre sera uniquement permise et qu'il ne soit ainsi ni récompensé ni puni. Il est en outre possible que son intention soit tout simplement permise, auquel cas son œuvre sera uniquement permise et qu'il ne soit ainsi ni récompensé ni puni. À la suite de cela, donc, nous retournons à la traduction proposée ici, dans laquelle nous trouvons aussi, pour ce qui est de l'acte en lui-même, on le qualifiera de bon, corrompu ou permis selon l'intention qui a poussé son auteur à l'accomplir. Et pour ce qui est de la rétribution de son auteur, il sera récompensé, châtié ou exempt de rétribution selon son intention première, qui aura déterminé la valeur de son acte, à savoir bon, corrompu ou permis. Dans ce passage-là, on a pu se rendre compte que les deux premières phrases qui composent ce hadith ont chacune un sens qui leur est propre. Et que ce n'est pas une simple répétition. Donc la première phrase c'est « Innamal a'malu bin niyat ». Les actes ne valent que selon les intentions. C'est-à-dire selon les intentions qui les motivent. Et la seconde c'est « Wa innama li kulli mri'in manawa ». Et chacun ne sera rétribué que selon son intention. Donc dans un premier temps, ça vise l'acte et le fait que l'acte ne peut être motivé que par une intention et que l'acte ne vaudra que selon son intention qu'il a motivé. Que cette intention soit bonne ou mauvaise. Et dans un second temps, c'est-à-dire dans la seconde phrase, dans laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Wa innama li kulli mri'in manawa » et chacun ne sera rétribué que selon son intention. C'est ici donc la rétribution de la personne qui agit, qui est visée. Et le fait qu'elle ne récoltera que selon ce qu'elle aura intentionné dans son acte. Si elle a eu une bonne intention, alors elle aura une bonne intention. Si elle en a eu une mauvaise, elle aura une mauvaise. Et si elle a eu l'intention d'accomplir uniquement quelque chose de permis, alors cela sera considéré comme tel, et à ce moment-là, elle ne sera ni récompensée, ni châtiée. Sauf si, comme on va le voir, Inch'Allah, elle a l'intention, en accomplissant quelque chose qui est uniquement permis, comme le fait de manger, de boire, ou tout ce qui s'apparenterait à cela, elle a l'intention de prendre des forces pour accomplir un acte d'adoration. Alors à ce moment-là, elle aura, en conséquence de son intention, et elle sera rétribuée en conséquence, et elle accomplira donc dans cette chose-là une adoration. Et nous avions mentionné, et on va avoir l'occasion de le rementionner, Inch'Allah ta'ala, le fait que les êtres, les personnes, les serviteurs pieux et éveillés, eh bien leur, les choses habituelles qu'ils accomplissent deviennent des adorations. Quand ils mangent, elles deviennent une adoration, alors qu'à la base, c'est juste quelque chose de permis. Pourquoi ? Parce que ils ont par là l'intention de prendre des forces pour accomplir des actes d'adoration. Pareil pour ce qui en est de boire ou de se reposer. La personne, elle se repose et dans le fait de se reposer, elle a une récompense. Étant donné qu'elle se repose, par exemple, pour pouvoir se lever afin d'accomplir la prière de la nuit ou pour pouvoir se lever en forme pour accomplir la prière d'El Fajr ou pour pouvoir, après la prière d'El Fajr, lire le Coran, ou étudier. Et ainsi de suite. Naam. Suite à cela, dans le sixième point, le Cheikh Abdel Mohsin a dit, concernant sa parole, celui qui émigre pour Allah et son messager, son émigration lui sera comptée pour Allah et son messager. Et celui qui émigre pour obtenir un bien en ce bas monde, ou pour épouser une femme, son émigration lui sera comptée selon ce qu'il recherchait. Le sûr de dire en commentaire, le terme émigration, al-hijra, vient de al-hajr, qui signifie l'abandon, al-tark. Cela peut désigner l'abandon du pays où règne la peur pour un pays où règne la sécurité, comme l'émigration de la Mecque vers l'Abyssinie, ou encore l'abandon de la terre de mécréance vers la terre d'Islam, comme l'émigration de la Mecque vers Médine. Et cette dernière émigration, de la Mecque vers Médine, a cessé après la libération de la Mecque. Quant à l'émigration d'un pays de mécréance, ou plus précisément de polythéisme, vers un pays d'islam, elle perdurera jusqu'à l'arrivée de l'heure. Sa parole, sallallahu alayhi wa sallam, celui qui émigre pour Allah et son messager, son émigration lui sera comptée pour Allah et son messager, désigne à la fois la condition et la récompense. Alors qu'elles sont généralement distinctes. à la base, quand tu mentionnes une condition et que par la suite tu mentionnes la récompense de celui qui remplira cette condition-là, eh bien c'est que cette récompense est distincte de la condition. Mais là, on se rend compte que la condition et la récompense sont identiques. Le sens en est que celui qui émigre pour Allah et son messager, dans son intention et son but, alors son émigration lui sera comptée pour Allah et son messager dans sa récompense et sa rétribution. Souligne bien ces deux passages. Dans son intention et son but. Et c'est là la condition. Et dans sa récompense et sa rétribution. Et là, ce qui renvoie à la récompense. C'est en cela qu'elles sont différentes. Lorsque le prophète alayhi salatu wasalam dit, celui qui émigre pour Allah est son messager, c'est-à-dire dans son intention et son but, dans son objectif. Son émigration lui sera comptée pour Allah et son messager dans sa récompense et sa rétribution. C'est en cela qu'elles sont différentes. Ibn Rajab a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné que les œuvres dépendaient des intentions et que chacun est rétribué selon son intention, bonne ou mauvaise. Ce sont là deux paroles globales et deux règles générales. Et aucun acte ne sort du cadre de ces deux règles. Et d'ailleurs, on avait abordé précédemment que lorsque le prophète alayhi salatu wasalam dit « Innama al-a'malu bin-niyyat » les actes ne valent que selon leurs intentions, c'est l'ensemble des œuvres qui sont visées, pas uniquement les œuvres d'adoration. Selon l'avis qu'avait prévaloir le Cheikh Abdel Mohsin, « Hafidhahullahu ta'ala » Ibn Rajab de continue en disant, il mentionna par la suite deux actes dont la forme apparente est la même, mais dont la valeur, c'est-à-dire que l'acte soit bon ou corrompu, dépend des intentions. C'est comme s'il disait, toutes les œuvres sont à l'image de ces deux actes. Ces deux actes-là, donc... Ces deux actes-là sont le fait d'émigrer. Le premier acte, c'est le fait d'émigrer pour Allah et son messager. Et le second, c'est le fait d'émigrer pour un bien de ce bas monde ou pour épouser une femme. Il dit également... Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a informé que l'émigration diffère en fonction des intentions et des objectifs qu'on vise à travers elle. Celui qui émigre vers une terre d'islam par amour d'Allah et de son messager dans l'espoir d'y apprendre l'islam et d'y pratiquer sa religion sans contrainte, également il ressort des termes en arabe, le fait que cela soit fait ouvertement, donc on dira, et d'y pratiquer sa religion ouvertement sans contrainte, ce qui lui était impossible dans les pays de mécréants, alors il est celui qui a accompli l'émigration vers Allah et son messager. Rajoutez-le, vers Allah et son messager, au vrai sens du terme. Lui suffit, comme honneur et fierté, d'atteindre ce qu'il a visé par son émigration vers Allah et son messager. C'est en ce sens qu'il s'est contenté, pour réponse à cette condition, d'en répéter les termes. Et ce, dans le fait que le prophète, alayhi salatu wasalam, il a dit « فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ » Celui donc dont l'émigration est vers Allah et son messager, alors son émigration sera comptée vers Allah et son messager. Le prophète, alayhi salatu wasalam, du fait du grand mérite que contient cet acte-là, il s'est contenté de répéter les mêmes termes, car cela suffit comme honneur et fierté pour quiconque les aura accomplis. Car en accomplissant son émigration, il a obtenu l'objet de son intention, c'est-à-dire la satisfaction d'Allah et son prophète. Sallallahu alayhi wa sallam, ce qui représente le comble de ce que peut rechercher un homme tant dans ce bas monde que dans l'au-delà. Et celui dont l'intention... en émigrant d'une terre de mécréance vers une terre d'islam et d'obtenir un bien de ce bas monde ou d'épouser une femme en terre d'islam, son émigration lui sera comptée selon ce qu'il recherchait. Le premier est commerçant, le deuxième est un prétendant au mariage, mais aucun des deux n'est considéré comme ayant émigré pour Allah et son messager. Concernant sa parole, sallallahu alayhi wa sallam, selon ce qu'il recherchait, c'est là une forme de mépris et de dédain pour ce qu'il recherchait comme bien de ce bas monde, car il ne l'a même pas mentionné. Ici, l'auteur fait référence, rahimahullah, au fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le deuxième exemple qu'il a donné, il a dit « وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ إِمْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَجْرَ إِلَيْهِ » Et celui qui émigre pour obtenir un bien de ce bas monde ou pour épouser une femme, son émigration lui sera comptée selon ce qu'il recherchait. Il ne s'est pas donné la peine de répéter cette chose-là par mépris pour le fait de rechercher par ce genre d'adoration éminente un bien de ce bas monde au lieu de rechercher l'agrément d'Allah tabaraka wa ta'ala et sa récompense dans l'au-delà. Le sourd continue en disant « L'émigration vers Allah et son messager est unique. Elle ne se subdivise pas. C'est pourquoi il répondit en reprenant les mêmes termes. » Et c'est là donc une deuxième explication du fait que le prophète, alayhi salatu wassalam, il a répété les mêmes termes. Quand il a mentionné l'émigration qui est accomplie pour Allah et son messager, alors qu'il ne l'a pas fait quand il a fait mention de l'émigration par laquelle est visé un bien de ce bas monde ou le mariage avec une femme. Étant donné qu'en vérité, le fait de rechercher Allah tabaraka wa ta'ala, son agrément, c'est quelque chose d'unique. C'est d'ailleurs pour cela que tu trouves le croyant véridique, constant, endurant dans une seule et même voie. Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala disait « Fali wahidin, kun wahidan, fi wahidin, a'ni sabil al-haq wal-imani. » Pour un seul et unique, soit unique sur une voie unique. Je vise par là la voie de la vérité et de la foi. C'est comme ça que tu trouves le croyant sincère pour Allah tabaraka wa ta'ala. Il ne recherche par ses actes que son agrément et sa récompense dans l'au-delà. Véridique. Et il n'est pas instable. Et il suit une seule et même voie. La voie qui mène à l'agrément d'Allah tabaraka wa ta'ala, qui n'est autre que la voie du prophète alayhi salatu wa salam, qui n'est autre que la voie de la vérité, qui n'est autre que la voie de la foi. Fali wahidin, kun wahidan, fi wahidin, a'ni sabil al-haqi wal-imani. L'émigration vers Allah et son messager est unique, elle ne se subdivise pas. C'est pourquoi il répondit en reprenant les mêmes termes. Quant aux raisons qui peuvent motiver l'émigration d'une personne, animé par la recherche des intérêts de ce bas monde, rajoute-le, animé par la recherche des intérêts de ce bas monde, elles sont innombrables. Quant aux raisons qui peuvent motiver l'émigration d'une personne, animé par la recherche des intérêts de ce bas monde, elles sont innombrables, puisqu'il se peut qu'une personne émigre pour une cause qui peut être permise ou illicite, de même que les individus qui visent par leur émigration des objectifs mondains ne sont pas non plus quantifiables. C'est pour cette raison qu'il a dit, selon ce qu'il recherchait, c'est-à-dire, qui que soit et quelle que soit la cause de son émigration. Dans ce passage-là du commentaire du Cheikh Abdel Mohsin, Hafidhahullah Ta'ala, on a pu aborder plusieurs points. Premièrement, la définition de l'immigration en islam. L'immigration, premièrement, dans son sens linguistique, c'est le délaissement. At-tark. Dans la religion, c'est comme l'a dit Le commentateur Rahimahullah, c'est l'abandon du pays où règne la peur pour un pays où règne la sécurité. Et il a cité comme exemple l'émigration de la Mecque vers l'Abyssinie. Ou encore l'abandon de la terre de mécréance vers la terre d'islam. Comme l'émigration de la Mecque vers Médine. Donc, l'émigration, le hijra, dans son sens religieux, ça vise ces deux choses-là. L'abandon de la terre de mécréance vers la terre d'islam, également l'abandon d'un pays où règne la peur pour un pays où règne la sécurité. Puis, nous nous sommes rendus compte également que l'émigration de la Mecque à Médine a cessé. Et c'est là le sens de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il a dit « La hijrata ba'd al-fath » Il n'y a pas d'émigration après la conquête, c'est-à-dire après la conquête de la Mecque. Pour quelle raison? Pour la simple raison que la Mecque est devenue, à partir du moment qu'elle a été conquise, terre d'islam. À ce moment-là, il n'y a plus raison d'en émigrer. C'est pour cela que le prophète, alayhi salatu wasalam, a dit « La hijrata ba'd al-fath » Il n'y a pas d'émigration après la conquête. C'est-à-dire, il n'y a pas d'émigration à partir de la Mecque. Mais il n'a pas visé par là l'émigration de manière générale. Étant donné que, comme l'a rapporté l'imam Abu Daoud, rahimahullah ta'ala, d'après Muawiyah, radiyallahu an, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Le repentir ne cessera jusqu'à ce que ne cesse l'émigration. » Et l'émigration ne cessera pas, et ce jusqu'à ce que le soleil se lève à partir de l'Occident. Ce qui signifie que le principe de la hijra, de l'émigration, est un principe ininterrompu. Également, on a pu se rendre compte ici, et c'est là un second enseignement à tirer du mérite du fait de rechercher l'agrément d'Allah, tabaraka wa ta'ala, et le fait que c'est là le plus noble des objectifs, ici-bas et dans l'au-delà. Et également, et c'est là un troisième point, la bassesse du fait d'œuvrer pour ce bas monde, qui apparaît ici dans le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas mentionné la rétribution comme il l'a fait pour le premier exemple. Comme on l'a vu, le prophète alayhi salatu wasalam, lorsqu'il a cité ces exemples-là, qu'est-ce qu'il a dit ? فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ Celui qui émigre pour Allah et son messager, son émigration lui sera comptée pour Allah et son messager. Afin de mettre en avant le mérite du fait d'accomplir cela, il a répété le fait que ce soit compté pour Allah et son messager. Tandis que pour montrer la bassesse du fait de rechercher un bien de ce bas monde, il ne s'est pas donné la peine de répéter en tant que mépris de cette chose-là. Il a dit, celui qui émigre pour obtenir un bien en ce bas monde ou pour épouser une femme, son émigration lui sera comptée selon ce qu'il recherchait. Et cela est également dû au fait que les objectifs visés dans ce bas monde sont multiples. Un tel émigre pour un bien de ce bas monde, pour un commerce, pour un bien immobilier, pour X ou Y raison, pour se marier avec une femme, voire parfois pour des choses qui sont carrément interdites. Naam. Alors à ce moment-là, son émigration lui sera comptée selon ce qu'il recherchait. On a donc vu ici l'importance et l'impérativité de la sincérité vis-à-vis d'Allah tabaraka wa ta'ala et la bassesse du fait de rechercher autre que son agrément dans nos actions. Dans le septième point, le Cheikh Abdel Mohsin, hafidhahullah ta'ala, a dit, Ibn Rajab a dit, donc toujours dans Jami' al-Ulum wal-Hikam, il s'est répandu que le récit de celui qui émigra pour épouser Qais fut la cause des propos du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et celui qui émigre pour obtenir un bien de ce bas monde ou pour épouser une femme. De nombreux contemporains l'ont mentionné dans leurs ouvrages, mais nous n'avons vu à ce sujet aucune chaîne de transmission authentique, et Allah est plus savant. Donc ici, Ibn Rajab rahimahullah ta'ala, il explique qu'en vérité, l'histoire de celui qui a émigré pour épouser Qais, na'am, cette histoire-là qui est relatée, n'est pas à l'origine de l'exemple qu'a donné le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Cet exemple-là, donc, il a été donné par le prophète alayhi salatu wa salam, et il a une portée générale, c'est-à-dire que maintenant une personne, elle vient, elle émigre, non pas pour Allah tabaraka wa ta'ala et son messager, non pas pour la religion, non pas pour accomplir ouvertement sa religion, mais pour se marier avec une femme, dans le sens où il souhaite se marier avec une femme qui réside dans une terre d'islam. Lui, ce n'est pas son cas. Elle émet comme condition qu'il se rende en terre d'islam et qu'il y émigre. Il y vient donc dans le seul but de se marier avec cette femme-là, non pas pour la religion. C'est cela qui est visé par le prophète, alayhi salat wa salam. Et même si c'est relativement clair à la base, il est peut-être opportun ici de soulever un point, étant donné que parfois il y a des questions qui sont posées à ce sujet. La question, c'est de savoir, est-ce qu'une personne qui souhaite émigrer en terre d'islam afin d'accomplir sa religion et qui souhaite se marier en terre d'islam est visée par le blâme ici? La réponse est non. Pourquoi? Parce que la personne, son but c'est quoi? C'est de s'installer durablement dans une terre d'islam afin d'y accomplir ouvertement sa religion. Et pour cela, la personne, elle, choisit de se marier en terre d'islam. Car elle considère que ça va être un bien pour elle dans la religion. Et que ça va être une cause pour qu'il puisse s'installer durablement en terre d'islam afin de pratiquer ouvertement sa religion. Donc cette personne-là, son intention est louable et pas blâmable. Étant donné que ce qui motive sa résidence en terre d'islam, c'est la recherche de l'agrément d'Allah, tabaraka wa ta'ala, en accomplissant, en cherchant à accomplir ouvertement sa noble religion. Dans le huitième point, le Cheikh Abdel Mohsin, rahimahullah ta'ala, a dit « Le lieu de l'intention est le cœur, et sa prononciation est une innovation. Il n'est donc pas permis de formuler oralement l'intention dans aucun acte d'adoration. » Sauf pour le pèlerinage, le hajj et la umra, où il est permis de la dire à voix audible dans la talbiya, selon le type de rite choisi pour l'accomplissement du pèlerinage, qiran, ifrad ou tamattu'. Ainsi on dit, me voici pour l'accomplissement du hajj et de la umra, ou me voici pour l'accomplissement du hajj, ou me voici pour l'accomplissement de la umra. C'est là le sens donc de la formule de sacralisation. Me voici pour l'accomplissement du hajj et de la umra. Labbayk Allahumma bihajjin wa umra. Peut-être qu'il serait plus correct ici de dire je réponds à ton appel, ô Allah, par un hajj et une umra. Même si ce qui a été proposé ici, comme vous en êtes rendu compte, est correct. Ou, labbayk Allahumma bihajj. Je réponds à ton appel, ô Allah, par un hajj. Ou, labbayk Allahumma bi'umra. Je réponds à ton appel, ô Allah, par une umra. La prononciation de l'intention à voix audible est valable pour cette adoration en particulier. Au vu des textes authentiques de la sunna mentionnés à ce sujet. En dehors de ce cas, il n'est pas permis de formuler l'intention à voix audible. Dans ce passage-là, le Cheikh Abdel Mohsin, hafidhahullah ta'ala, a donc abordé le sujet de l'intention et de l'endroit dans lequel elle réside, à savoir le cœur. Et il y a établi que le lieu de l'intention, c'est le cœur. Et que le fait de prononcer l'intention est une innovation. La preuve de cela, c'est justement l'absence de preuve qui légitimerait le fait de prononcer l'intention. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne l'a pas fait. Ses compagnons radiallahu anhum ne l'ont pas fait. Et rien ne les a empêchés de le faire. Et ce qui peut pousser certaines personnes à prononcer de manière audible l'intention était présent à l'époque du prophète alayhi salatu wa sallam et de ses compagnons. Malgré cela, ils ne l'ont pas fait. Ce qui nous prouve donc qu'il fait partie de la sunna de délaisser cette chose-là. Yarhamukallah, et que le fait d'accomplir cette chose-là, à savoir le fait de prononcer l'intention de manière audible, relève de l'innovation dans la religion. Al-ibtida'. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, comme vous le savez, il a dit, quiconque accomplit dans notre religion ce qui n'y est pas conforme, se le verra rejeté. Et il a également dit, alayhi salatu wassalam, et méfiez-vous des choses nouvellement inventées en religion, car toute chose nouvellement inventée en religion est une innovation, et toute innovation est un égarement. Donc, le fait que le prophète, alayhi salatu wassalam, et ses compagnons ne l'aient pas fait, est une preuve. D'ailleurs, Ibn Kathir, rahimahullah ta'ala, a dit, dans son exégèse de la parole d'Allah, tabaraka wa ta'ala, dans sourate Al-Ahqaf, وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم. Et ceux qui ont mécru ont dit à propos de ceux qui ont la foi, si jamais c'était un bien, ils ne nous y auraient pas devancé. Et du fait qu'ils n'ont pas suivi cette guidée-là, ils diront certainement, ce n'est là qu'un mensonge ancien. Donc les polythéistes, les mécréants, en dénigrant les compagnons du prophète, alayhi salatu wa salam, qu'est-ce qu'ils disaient? Si jamais ce qu'ils suivent, c'est-à-dire la religion de l'islam, était un bien, ils ne nous y auraient pas devancé, dans le sens où ces gens-là donc auraient, selon leurs prétentions, auraient été plus en droit d'adopter cette religion. Ibn Kathir a dit, quant aux adeptes de la sunna et du groupe uni sur la vérité, ils disent à propos de tout acte que les compagnons du prophète, alayhi salatu wassalam, n'ont pas fait, « لو كان خيرا لسبقونا إليه » Si jamais ça avait été un bien, ils nous y auraient devancé. Donc l'inverse. Et c'est là la conviction qu'ont les adeptes de la sunna concernant les compagnons du prophète, alayhi salatu wassalam. Ils ont cette bonne opinion d'eux. Et ils disent, si jamais cette chose-là qu'ils n'ont pas faite était un bien, ils nous y auraient devancé. Une personne maintenant peut dire, comment peut-on affirmer que c'est une innovation alors que nous nous trouvons dans certains livres écrits par des ulama? La réponse à cela, c'est que ce qui est pris en compte, ce sont les preuves religieuses. Et les preuves religieuses, c'est Allah a dit, le messager a dit, et les compagnons ont dit. Après cela, il n'y a plus de place pour la parole d'un tel ou d'un tel, quel qu'il soit. Quel que soit le rang qu'il occupe, si sa parole n'est pas en conformité, alors à ce moment-là, sa parole n'est pas prise en compte. Et comme le disait l'imam Malik, rahimahullah ta'ala, il n'en est pas un parmi nous sans qu'on prenne de lui certaines choses et qu'on en délaisse d'autres. Étant donné que l'infaillibilité est pour le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Il y a un point ici à soulever concernant ce qu'a dit le Cheikh Abdel Mohsin, rahimahullah ta'ala wa hafidha. Qu'Allah lui fasse miséricorde et qu'il le préserve. Quand il a citer comme exception à cela le fait de formuler oralement l'intention durant le pèlerinage et la Umrah, en disant donc la talbiya, selon le rite choisi. Vous n'êtes pas sans savoir que il y a trois types de rites pour celui qui souhaite accomplir le pèlerinage, le hajj. Il y a al-qiran, il y a al-ifrad et il y a al-tamattu'. Al-qiran, c'est le fait que le pèlerin, il va accomplir pendant les mois du pèlerinage une umrah, et qu'ensuite il ne va pas se désacraliser, c'est-à-dire il va rester en état de sacralisation jusqu'au hajj. Et ensuite, lorsque le moment sera venu, il va accomplir le hajj. Al-ifrad, c'est le fait d'accomplir uniquement les rites du hajj et de ne pas accomplir la umrah. Quant au tamattu, c'est là un troisième rite qui consiste à accomplir une umrah pendant les mois du pèlerinage, puis de se désacraliser, c'est-à-dire la personne n'est plus en état de sacralisation, puis lorsque les jours du pèlerinage arrivent, d'entrer à nouveau en état de sacralisation. C'est ce qu'on appelle l'ihram. Le fait que de rentrer en état de sacralisation, c'est l'ihram. Donc il y a trois types de rites. Al-qiran, al-ifrad et al-tamattu. La personne, lorsqu'elle rentre en état de sacralisation, peu importe le rite qu'elle a choisi, elle va déterminer de manière orale et audible le rite qu'elle a, pour lequel elle a opté. Si elle a opté pour al-qiran, elle va dire labbaik allahumma bi'umra. Puis, elle va se désacraliser une fois qu'elle aura terminé sa umra. Et elle va, lorsqu'elle va rentrer en état de sacralisation pour le hajj, dire labbaik allahumma bi'hajj. Si par contre elle a opté pour al-ifrad, ça veut dire qu'elle va accomplir uniquement al-hajj. Elle va donc dire au moment voulu labbaik allahumma bi'hajj. Je réponds à ton appel, ô Allah, par un hajj. Si par contre elle a opté pour al-tamattu, alors là elle va dire, au moment où elle se rend, où elle se sacralise, elle rentre en état de sacralisation, labbaik allahumma bihajjin wa umra. Donc elle va dire de manière audible cette chose-là. Le Cheikh Abd al-Muhsin, hafidhahullah ta'ala, et un bon nombre d'autres ulama considèrent cela comme étant une exception à la règle, en disant que c'est là une manière de formuler l'intention. D'autres ulama sont d'avis qu'en vérité, c'est là une autre question. Et qu'en vérité, ce n'est pas une exception à la règle. Et que ça ne revient pas à formuler oralement l'intention. Pourquoi ? Parce que l'intention, barakallahu fikum, elle est présente dans le cœur de celui qui souhaite accomplir le hajj ou la umrah depuis le moment où il est sorti de chez lui. L'intention, elle est dans son cœur. Et ce, donc, tout le long de son voyage, durant ses rites également. Et lorsqu'il arrive au moment de se sacraliser, il est impératif de déterminer le rite pour lequel il a opté. Donc ici, c'est plus considéré comme étant la détermination du rite pour lequel le pèlerin a opté que la formulation de l'intention. Selon ce deuxième avis-là, alors on considérera que le fait de formuler oralement l'intention est une innovation, et ce, sans exception. Et que ce cas-là, en vérité, sort de la question qui est abordée ici. Et le fait de formuler l'intention dans le pèlerinage, ça serait que, par exemple, la personne, lorsqu'elle sort de chez elle, elle sort de chez elle, par exemple, elle se rend à l'aéroport, Et elles disent, oh Allah, j'ai l'intention d'effectuer le pèlerinage ou la Umrah pour toi. Ça serait ça, donc, formuler l'intention. Comme certaines personnes le font avec la prière. Elle vient, avant d'accomplir la prière, toi tu as fait ton takbir, et tu es en train de dire dua à l'istiftah, et lui tu l'entends à côté de toi, il dit, oh Allah, j'ai l'intention d'accomplir la prière de dhuhr en 4 raka'at, derrière l'imam Foulan, à telle heure. Malheureusement, ça existe. Et c'est ça donc qui est visé par le fait de formuler l'intention. Donc il paraîtrait, wallahu a'lam, qu'en vérité, le fait que la formulation de l'intention soit une innovation reste quelque chose de général. Quant à ce qu'a mentionné le Cheikh Abd al-Muhsin, hafizahullah ta'ala ici, ça concernerait en vérité une autre question, celle de la détermination du rite lors du pèlerinage. Neuvième point, les enseignements du hadith. Le Shir a dit, premièrement, tous les actes sont accomplis avec une intention. Et il a tiré ça donc de la parole du prophète alayhi salatu wassalam, innama al-a'malu bin-niyyat. Les actes ne valent que selon leurs intentions. Que ces actes-là relèvent de l'adoration ou pas, étant donné que nous avons vu que c'est général. Deuxièmement, on rétribue l'auteur d'un acte en fonction de son intention. Troisièmement, la récompense de l'accomplissement d'un acte dépend de son intention. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit « Wa innama li kulli mir'in ma nawa » Et chacun ne sera rétribué que selon son intention, c'est-à-dire en bien ou en mal. Quatrièmement, le savant peut donner des exemples pour expliquer et clarifier. Et là, ça relève de la pédagogie du prophète, alayhi salatu wassalam, le fait qu'il ait expliqué des choses et qu'il les ait illustrées par des exemples. Wa bin mithal yattadihu al-maqal. Et c'est avec l'exemple qu'on peut clarifier le discours. Cinquièmement, le mérite de l'émigration, en raison de la comparaison donnée par le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, comme il est rapporté dans le Sahih Muslim, d'après Amr ibn al-As, radiallahu anhu, qui a dit, ou plutôt, qui a rapporté du prophète, alayhi salatu wa sallam, qu'il a dit, « Ne sais-tu pas qu'adopter l'islam comme religion efface, littéralement détruit, les péchés commis antérieurement ? Et ne sais-tu pas que le fait d'émigrer efface les péchés commis antérieurement ? Et ne sais-tu pas que le pèlerinage efface les péchés commis antérieurement ? Donc tu retrouves ici les mérites de ces trois choses-là, le fait d'embrasser l'islam, le fait d'émigrer et le fait d'accomplir le pèlerinage. Sixième point, l'homme est récompensé, châtié ou privé de bien en fonction de son intention. Septième point, les actes dépendent des objectifs vers lesquels ils tendent. Une chose peut n'être que permise, mais se muer, c'est-à-dire se transformer en acte d'obéissance si l'individu vise par elle le bien, comme le fait de manger, de boire, si son intention est de se renforcer pour l'adoration. Et nous avons vu donc que les habitudes des gens pieux et doués de et éveillés, doués de raison, deviennent des adorations, alors que les adorations des personnes insouciantes deviennent de simples habitudes. Et nous avons expliqué cette parole qui est rapportée des salafs la semaine dernière. L'imam Abdullah ibn al-Mubarak, rahimahullah ta'ala, disait « Il se peut qu'un acte infime soit grandi par l'intention et qu'un acte conséquent soit diminué par l'intention. » Donc ne méprise rien des actes de bien. Le prophète alayhi salatu wassalam disait « La tahqiranna min al-ma'rufi shay'a » Ne méprise des œuvres de bien rien du tout. Il se peut qu'un acte infime, il soit grandi par une noble intention par laquelle son auteur cherche à se rapprocher d'Allah sincèrement. Huitième et dernier point, pour un seul et même acte, un homme peut être récompensé et un autre privé de bien. Et tu peux te rendre compte que certaines personnes peuvent accomplir le même acte de la même manière et un va bénéficier d'une grande récompense auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala, alors que le second encourt un grand châtiment. Le premier aura été sincère en recherchant l'agrément d'Allah tabaraka wa ta'ala et sa récompense dans l'au-delà, alors que le second, qu'Allah nous en préserve, n'aura pas fait preuve de sincérité et aura recherché autre que l'agrément d'Allah Jalla fi'ulah. Al-Bukhari et Muslim ont rapporté, d'après Abu Musa al-Ash'ari, qu'un bedouin est venu voir le prophète alayhi salatu wassalam et lui a dit, il en est qui combattent pour le butin et il en est d'autres qui combattent pour qu'on parle en bien d'eux. Et il en est d'autres qui combattent pour qu'on voit le mérite qu'ils ont. Lequel d'entre eux est considéré comme étant dans le sentier d'Allah? Le prophète alayhi salatu wassalam lui a répondu, celui qui a combattu pour que la parole d'Allah soit la plus haute, c'est lui qui est dans le sentier d'Allah. Donc c'est là quelque chose de très important. Rends-toi compte ici que ces différentes personnes en apparence font le même acte, mais que du fait des intentions différentes qui les animent, certaines sont récompensées en bien et d'autres sont rétribuées en conséquence de leurs œuvres et de leurs mauvaises intentions. Wal'iyadhu billah. C'était donc là la fin du commentaire du premier hadith. Et on va à présent aborder le second, qui n'est autre que le hadith de Jibril. Qui c'est parmi les frères donc, qui peut nous le réciter? Hadith Jibril. Et wa Nasir?
An Umar radiyallahu anhu aïda. قال بينما نحن جلوس عند النبي صلى عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم إذ طلع علينا الرجل شديد بياد الثياب شديد سواد الشعر لا يعرف لا يرى عليه أثر السفر حتى جلس إلى النبي
ولا
يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا قال صدقت فعجبنا له يسأله ويصدقه قال أخبرني عن الإيمان فأخبرني عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره قال صدقت قال أخبرني عن الإحسان قال
فأخبرني عن الإحسان
قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك قال فأخبرني عن الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل قال فأخبرني عن أماراتها قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العارة رعاء الشاء يتطونون في البنيان ثم انطلق فلبسنا مليا فقال يا عمر أتدري من السائل قلت الله ورسوله أعلم قال فإنه جبريل آتاكم يعلمكم دينكم
أتاكم
يعلمكم دينكم رواه مسلم
بارك الله فيك جزاكم الله خيرا إلى السبت بروشان إن شاء الله. Vous aurez l'occasion de réciter également ce hadith, étant donné que je pense que nous allons y rester un certain temps. Et nous demandons l'aide à Allah tabaraka wa ta'ala. Donc d'après Omar, radiyallahu an, un jour, alors que nous étions assis auprès du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, se présenta un homme vêtu d'habits d'une blancheur resplendissante et aux cheveux très noirs. On ne pouvait distinguer sur lui aucune trace de voyage, alors que personne d'entre nous ne le connaissait. Il prit place face au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il plaça ses genoux contre les siens et posa les paumes de ses mains sur ses cuisses et lui dit, « Ô Muhammad, informe-moi sur l'islam. » Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit alors, l'islam consiste en ce que tu témoignes qu'il n'y a de divinité digne d'adoration qu'Allah et que Mohammed est le messager d'Allah. Que tu accomplisses la prière rituelle, verses la zakat et jeûnes le mois de Ramadan et que tu effectues le pèlerinage à la maison d'Allah si tu en as les moyens. Son interlocuteur lui répondit, tu as dit vrai. Et nous de nous étonner qu'il l'interroge pour ensuite l'approuver. Puis il reprit, informe-moi sur la foi, al-iman. Le prophète répliqua, sallallahu alayhi wa sallam, la foi consiste en ce que tu crois, en ce que tu dois croire en Allah, en ses anges, en ses livres, en ses prophètes. Ici, on dira plutôt en ses messagers. Étant donné que le terme utilisé, c'est rasoul. Et que, de manière usuelle, on traduit rasoul par messager. Tandis que prophète, au pluriel, correspond à anbiya. Donc la foi consiste en ce que tu dois croire à Allah, en ses anges, en ses livres, en ses messagers, au jugement dernier. Tu dois croire encore au destin, qu'il te soit favorable ou défavorable. L'homme lui dit encore, tu as dit vrai. Et il reprit, informe-moi sur la bienfaisance. Al-ihsan, la bienfaisance ou également l'excellence. Et le prophète lui répondit, la bienfaisance ou l'excellence consiste à adorer Allah comme si tu le voyais. Car si tu ne le vois pas, certes lui te voit. L'homme lui dit encore, informe-moi sur l'heure du jugement dernier. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a lui répondu, sur l'heure du jugement, celui qui est interrogé n'est pas plus savant que celui qui le questionne. Là-dessus, l'homme lui dit, mais informe-moi sur ces signes précurseurs. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a lui répondu, ce sera lorsque la servante engendrera sa maîtresse, lorsque tu verras les va-nu-pieds, ceux qui vont nus, les miséreux, les bergers, se concurrencer dans les constructions de bâtisses de plus en plus hautes. Là-dessus, l'homme partit. Je demeurai là un long moment. Puis le prophète dit, « Oh Omar, sais-tu qui m'a interrogé ?»« Non, répondis-je. » »« Non, répondis-je, on ne le trouve pas dans la version arabe. » On trouve donc directement, « Allah et son envoyé sont plus savants. » Cet homme était l'ange Jibril. Il est venu pour vous enseigner votre religion. Hadith rapporté par Muslim. On aura l'occasion de lire le commentaire de ce hadith la semaine prochaine. On va se contenter de lire le premier point du fait qu'il est court et qu'il concerne ceux qui ont rapporté ce hadith. Le Cheikh Abd al-Muhsin hafidhahullah dit, le hadith Jibril, d'après Omar, n'a été rapporté que par Muslim et non al-Bukhari. Mais tous deux l'ont rapporté d'après Abu Huraira. Donc d'après Omar, il n'y a que Muslim qui l'a rapporté. Et pas al-Bukhari. Mais tous deux l'ont rapporté d'après Abu Huraira. L'imam al-Nawawi débuta les 40 hadiths par le hadith d'Omar. Innama al-a'malu bin-niyyat. Les actes ne valent que par les intentions. Qui est le premier hadith de Sahih al-Bukhari. Qu'il fit suivre du hadith d'Omar dans le récit de la venue de Jibril au prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est le premier hadith du Sahih Muslim. Il fut précédé en cela par l'imam al-Barawi dans ses deux ouvrages, Sharh al-Sunnah et Masabih al-Sunnah, qui débuta par ces deux hadiths, à savoir donc le hadith de l'intention et le hadith de Jibril. Pour ma part, j'ai consacré à ce hadith un commentaire plus conséquent que celui que je présente ici. Donc le Cheikh Abd al-Muhsin, hafidhahullah ta'ala, il a consacré à ce hadith-là, qui constitue la base fondamentale de la sunna, un livre indépendant. Et donc on a pu se rendre compte à partir de ce premier paragraphe de l'importance de ces deux hadiths. L'un représente la balance de l'aspect intérieur des actes, c'est-à-dire le hadith, lorsque le prophète alayhi salatu wasalam dit « Innama al-a'malu bin-niyyat », les actes ne valent que selon leurs intentions. C'est là la balance de l'aspect intérieur des actes. Tandis que le hadith de Jibril, qui est le hadith que nous venez d'entendre, il constitue la base fondamentale de la sunna, as-sunna, dans le sens où tu retrouves dedans les grandes lignes et les grands principes de cette religion. Et on va s'en tenir à cela pour aujourd'hui. Wallahu a'lam. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.